Chers amis, chers camarades, ainsi donc, le deuxième tour de cette élection présidentielle, celui qui est décisif pour désigner le président de la République, opposera Marine Le Pen et Emmanuel Macron. D'un côté, la figure de proue de l'extrême droite, héritière des idées racistes et xénophobes de son père et de toute une lignée, qui remonte aux défenseurs de l'Algérie française, à l'OAS, voire bien au-delà, et de l'autre, un serviteur émérite de la grande bourgeoisie, successivement dans la haute finance et dans la politique. Marine Le Pen, cette bourgeoise qui se pose en défenseur des pauvres et des orphelins pour gagner des voix du côté des classes populaires victimes de la crise, servirait la classe de privilégiés aussi fidèlement que ses prédécesseurs à l'Élysée, mais de façon plus autoritaire encore. Elle a accédé au deuxième tour avec les votes d'une partie de l'électorat populaire. L'influence électorale du Front national résulte des déceptions légitimes du monde du travail à l'égard des grands partis de gauche, Parti socialiste et Parti communiste, qui ont prétendu gouverner dans son intérêt, mais qui n'ont cessé de les fouler aux pieds. Le chauvinisme, la méfiance envers l'étranger que les grands partis de gauche ont substitué au fil du temps aux idées de lutte de classe et à l'internationalisme, recyclés de façon exacerbée par le Front national, affaiblissent le monde du travail déjà aujourd'hui. Ils sèment des divisions mortelles entre Français et étrangers, entre travailleurs du privé et ceux du public, entre travailleurs en activité et chômeurs. Alors je m'adresse aux électeurs du monde du travail, tentés par cette forme ultime d'électoralisme, qui consiste à voter pour le FN sous prétexte qu'il n'a jamais gouverné, pour leur dire « Vous vous affaiblissez vous-même en cherchant l'ennemi du côté de vos frères de classe d'autres origines. Cela dissimule vos véritables ennemis, ceux qui siègent dans les conseils d'administration des groupes industriels et financiers, qui vivent à Neuilly ou dans le 16e arrondissement de Paris et qui attaquent nos conditions d'existence. » Mais au deuxième tour, on n'en est même plus là. Voter pour Le Pen, cela peut contribuer à l'installer au pouvoir. Et c'est l'ensemble du monde du travail qui le paiera. Un pouvoir dirigé par Marine Le Pen foulera aux pieds plus fortement encore que ses prédécesseurs les droits et les libertés élémentaires du monde ouvrier. Elle affirme déjà qu'elle s'en prendra aux catégories les plus vulnérables des travailleurs immigrés, puis mettra en cause leurs enfants, même nés en France. Elle s'en prendra aux syndicats, pas assez dociles, aux associations qui lui déplaisent, comme le font déjà à leur échelle les municipalités du Front national. Les travailleurs conscients doivent rejeter le vote pour Marine Le Pen. Mais Macron, cet ancien banquier, ministre, est tout aussi un ennemi de la classe ouvrière que Marine Le Pen. Malgré la brièveté de son passage au gouvernement, il a eu le temps d'en faire la preuve avec la loi qui porte son nom et qui étend le travail du dimanche, et avec la loi El Khomri qu'il aurait voulu plus dure encore. Au premier tour, il a été, avec Fillon, celui qui annonçait son intention de supprimer des postes dans les services publics, alors même que le chômage est déjà catastrophique et que les services publics, du système hospitalier à l'éducation, se dégradent faute de personnel et de moyens. Emmanuel Macron se posera en rempart contre le Front national. C'est un mensonge. Dévoué qu'il est aux intérêts des classes possédantes, il ne fera rien contre la colère qui monte dans les classes populaires et que détourne Marine Le Pen. Le Front national ne pourra que se renforcer avec Macron comme président. Fillon, ayant été éliminé, il appelle avec la plupart de ses comparses à voter pour Macron. Le Parti socialiste, de son côté, s'aligne sur la droite. Pour notre part, nous ne participerons à aucun front républicain réunissant des politiciens de la droite extrême filloniste jusqu'au Parti socialiste. Pour ma part, je voterai blanc en donnant à mon vote le sens d'un rejet de Marine Le Pen sans cautionner Emmanuel Macron. Je ne suis pas propriétaire des votes qui se sont portés sur mon nom au premier tour. Une partie de mes électeurs voteront comme moi en votant blanc. D'autres voteront blanc ou nul en portant sur leur bulletin de vote, par exemple, une expression de leur protestation. D'autres s'abstiendront. Certains choisiront peut-être de voter en faveur de Macron en croyant à tort qu'ils s'opposent ainsi à la montée du Front National. L'essentiel est de prendre conscience que, quel que soit le résultat du vote, les exploités, les retraités, les chômeurs auront un ennemi à l'Élysée. Ils ne pourront se défendre face au grand patronat qui, avec l'aide du gouvernement, s'en prendra de plus en plus violemment à leurs conditions d'existence qu'en se retrouvant ensemble, demain, dans l'explosion sociale que la rapacité patronale finira par susciter. Je remercie enfin de leur confiance celles et ceux qui m'ont apporté leur soutien et leur suffrage et ont exprimé ainsi leur conscience d'appartenir au camp des travailleurs. Ces électrices et électeurs constituent une minorité dans l'électorat. Mais ils ont contribué à ce que se manifeste, à l'occasion de cette présidentielle, le courant communiste. C'est-à-dire le courant du mouvement ouvrier qui se revendique de la continuité avec ce que les expériences des luttes du passé ont produit de meilleur, de plus accompli, les idées communistes. C'est-à-dire la détermination non seulement de défendre les intérêts quotidiens du monde du travail dans le cadre de l'organisation capitaliste de la société, mais plus encore, d'œuvrer pour son renversement par l'action collective, consciente des travailleurs. Cette minorité entretient cette petite flamme qui représente plus d'espoir pour l'avenir de l'humanité que toutes les flambées électorales susceptibles d'allumer de faux espoirs avant de s'éteindre à l'épreuve de la réalité du pouvoir, c'est-à-dire face à la dictature des grands groupes industriels et financiers sur l'économie. Je voudrais terminer sur notre campagne. Nous avons fait une bonne campagne. Notre score est très bas, mais ce n'est pas une surprise. Pour la plupart des journalistes et des experts politiques, ce sera la preuve de notre échec et de notre isolement. Eh bien non, nous ne sommes pas isolés. Nous savons, par les retours que nous avons eus, par les discussions et les encouragements qui nous ont été adressés, que nous avons touché nombre de travailleuses, de travailleurs, nombre de chômeurs, d'ouvriers. Au travers de notre campagne, nous avons conforté les revendications du monde du travail. Nous avons donné de la légitimité à tous ceux qui se battent au jour le jour. Nous avons renforcé notre camp. Cela ne se mesure pas dans les urnes, car le vote est toujours pollué et déformé par des considérations électoralistes, par le vote utile. Combien nous ont expliqué que tout en se méfiant de Macron, ils voteront pour lui au premier tour pour éviter un duel Fillon-Le Pen. Et ils sont encore plus nombreux à avoir voté Mélenchon, quand bien même ils sont convaincus qu'il n'y aura pas de sauveur suprême. Tout cela, toujours au nom du moins pire, tout cela en se disant « on ne sait jamais ». Cela ne coûte rien. L'essentiel pour nous, c'est de s'être battu jusqu'au bout, d'avoir dénoncé les illusions et d'avoir prévenu les nôtres. L'essentiel est d'avoir dit ce que nous avions à dire malgré cette pression du vote utile. Alors oui, nous devons mesurer la réussite de notre campagne au nombre de discussions que nous avons eues, aux possibilités que nous avons eues d'expliquer la situation. Cette campagne nous a permis de nous faire connaître et reconnaître des nôtres, des travailleurs, et c'est cela qui compte pour l'avenir. Ce que nous avons défendu dans cette campagne est essentiel. Nous avons mis en avant la conscience de classe et la perspective de renverser la société capitaliste. Nous avons popularisé l'idée toute simple que les travailleurs font tout dans la société et doivent collectivement en devenir les maîtres. C'est une idée en avance sur la conscience de l'écrasante majorité, car le propre de toute société d'exploitation, c'est d'enfoncer dans le crâne des opprimés que les pauvres sont faits pour trimer et se taire. Et en même temps, c'est une idée, nous l'avons vu, qui touche profondément les plus exploités de la société. Comme le disent nos camarades d'Haïti, de Guadeloupe et de Martinique, nous avons voulu conscientiser les nôtres. Nous n'avons pas seulement demandé aux travailleurs d'exprimer leur écœurement face à une classe politique pourrie. Nous n'avons pas voulu être une simple caisse de résonance de la colère ou des frustrations face aux injustices. Nous avons défendu un programme et des perspectives de classe en nommant les choses. La classe capitaliste, la domination de la grande bourgeoisie, l'exploitation et la nécessité d'un parti. Nous savons que parler de classe ouvrière, d'exploitation, de lutte de classe et même de parler de construire un parti n'est pas à la mode et n'est pas bien compris de la frange des travailleurs la moins exploitée. Mais c'est notre seule raison d'être, la clé de la situation. La possibilité d'inverser le rapport de force entre le grand patronat et le monde ouvrier dépend en dernier ressort de la conscience de classe des exploités. Ce que nous pouvons faire dans le cadre d'une campagne électorale comme celle-là reste très limité. Ce que des millions de travailleurs ont dans la tête, la confiance qu'ils ont dans leur propre force, ne peut pas se modifier au travers d'une simple propagande électorale. C'est dans les luttes. C'est dans le feu de l'action que les travailleurs apprendront et forgeront cette conscience politique. L'expérience de toutes les grandes luttes, et en particulier des révolutions, le montre. Les ouvriers et les paysans russes de 1917 se sont soulevés contre la guerre, contre les pénuries et contre un régime sourd à leurs souffrances. Mais ils étaient loin d'avoir l'idée de prendre eux-mêmes le pouvoir. C'est dans la confrontation avec l'État tsariste et la bourgeoisie russe qu'ils en ont découvert la nécessité. Pour la masse des travailleurs, à l'échelle de la classe ouvrière, aucun argument ne peut remplacer l'action collective. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de recul du mouvement ouvrier et de montée des idées réactionnaires. Et nous saisissons les combats qui s'offrent à nous, essentiellement les combats électoraux. Aussi biaisé et limité soit-il pour faire progresser la conscience de classe des travailleurs. Mais cette conscience de classe, il faut qu'elle s'incarne dans un parti. Seul un parti existant dans toutes les villes, dans tous les quartiers populaires, dans toutes les entreprises est en mesure de transformer le sentiment de classe qui existe dans le monde du travail en conscience solide, capable de résister à toutes les épreuves, à tous les événements, y compris la menace du terrorisme et des guerres. Et un tel parti est indispensable à la victoire si des luttes puissantes se développent. Car si pour se déclencher, les luttes et les révolutions n'ont pas besoin des révolutionnaires, en revanche, elles ont besoin d'eux pour gagner. Alors oui, notre priorité est d'avancer dans la construction de ce parti. Cette campagne nous a permis de faire des rencontres. Certains sont venus à nous pour exprimer une sympathie, un soutien et parfois une volonté de s'engager à nos côtés. Il faut qu'ils puissent se rapprocher de nous et s'associer à nos activités. Ils nous rejoignent sur la base des idées de lutte de classe et du renversement de la classe capitaliste. C'est une base solide. Alors, il ne faut pas relâcher nos efforts. Dans les prochaines semaines, il faut profiter de l'oreille que nous avons gagnée auprès des travailleurs pour expliquer la situation. Car cette nouvelle situation posera bien des questions. Elle suscitera bien des inquiétudes. Et il faut donner des réponses, affirmer et réaffirmer sans relâche nos perspectives. La période qui vient va être une période politique intense. D'ici au deuxième tour, il va nous falloir tenir ferme sur nos positions, quelles que soient les pressions. Il y a, dans une semaine, le 1er mai, qui sera un moment important aussi pour apparaître politiquement. Puis, il y aura les élections législatives. Comme nous aurons des candidats dans toutes les circonscriptions du pays, nous aurons la possibilité de continuer de nous faire entendre à une échelle plus large que d'habitude. Cela multipliera donc les occasions de joindre et réunir ceux qui ont approuvé notre campagne et se sont sentis représentés. Cette campagne pour les législatives sera courte, mais elle sera aussi propice pour tisser de nouveaux liens et renforcer les plus anciens. Et puis, très bientôt, nous nous retrouverons à notre grand rassemblement annuel de la fête de Presles, qui aura une signification politique d'autant plus importante pour nous que c'est dans le cadre de la fête que nous tiendrons nos deux grands meetings nationaux des élections législatives. Nous avons réalisé, d'après donc les estimations, entre 0,5% et 0,7%. Cela correspond sans doute à près de 200 000 ou 300 000 voix, qui incarnent donc la continuité avec le courant communiste révolutionnaire. Ces 200 000 ou 300 000 voix seront peut-être source de raillerie de la part de certains. Mais il faut mesurer ce que cela représente socialement. Nos électeurs sont principalement des ouvriers, des employés, des chômeurs. Ce sont des femmes de ménage, des opérateurs, des facteurs, des retraités révoltés par la situation qui leur est faite. Ils sont présents dans les entreprises, dans les quartiers populaires, dans les barres d'immeubles, où sont justement concentrés ceux qui ont tout intérêt à changer la situation. Et sans même parler d'une remontée de la combativité ouvrière dans laquelle ils pèseraient, cela fait plusieurs 200 000 ou 300 000 personnes donc sûres de leur conviction et de leur légitimité. Cela fait plusieurs centaines de milliers de personnes qui seront le relais de nos idées et qui les aideront tôt ou tard à les démultiplier. Parce que ces idées, elles feront leur chemin. Elles feront leur chemin au-delà de nos discours et de nos arguments. C'est la vie elle-même qui les confortera. C'est la réalité de l'exploitation patronale, les fermetures d'usines, les bas salaires, les pensions indignes. Mais c'est aussi la réalité de la menace terroriste, des guerres. Parce que le capitalisme, c'est aussi tout cela. Et cela ne laisse d'échappatoire à personne. Même ceux qui se croient à l'abri et pensent qu'après tout, le capitalisme leur laisse vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, parce qu'ils ont un travail épanouissant et bien payé. Même eux sont rattrapés par cet ordre social et par la barbarie qu'ils trimballent. Qui peut envisager paisiblement l'avenir quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient ? On en a déjà les contre-coups ici, avec le terrorisme. Mais qui peut être certain que ces guerres ne dégénéreront pas en une guerre plus large encore ? La réalité est que nous sommes tous dans la même galère. Et la conscience d'avoir à combattre ceux qui dirigent aujourd'hui la planète et d'avoir à transformer la société de fond en comble s'imposera tôt ou tard au plus grand nombre et peut-être plus vite qu'on ne le croit. On le voit aujourd'hui avec les résultats de ce premier tour. Il en est fini du ronron électoral. Les équilibres politiques habituels sont rompus et nous entrons dans une période d'instabilité politique. Période d'instabilité qui n'est encore une fois que le reflet de crises plus graves, le reflet de la crise économique, mais aussi de la crise migratoire, de la crise écologique et de la crise internationale. Pour répondre à cette situation, nous sommes bien en retard, parce que la construction du parti nécessaire a pris du retard. Alors, raison de plus pour nous de garder notre conscience politique et la volonté de le construire, ce parti. Plus que jamais, il faut des militantes et des militants qui en défendent la perspective. Il faut des femmes et des hommes prêts à être à contre-courant et qui tiennent envers et contre tout à leurs convictions et à leur idéal. Encore une fois, nos idées correspondent aux nécessités vitales de millions de travailleurs et tôt ou tard, elles seront reprises par les millions de femmes et d'hommes décidés à ne plus subir. C'est à nous de les faire vivre.